Voilà, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que le Seigneur vous a béni abondamment. Alors, un bonjour tout spécial à notre orateur d'aujourd'hui, qui a déjà disparu. Voilà, donc ce sera notre frère. Ah, voilà. Bienvenue. Donc, ce sera notre frère Claude Villain de l'église évangélique de Roquebèche, c'est bien ça? Ouais, je ne me suis pas trompé. Alors, faisons-lui bon accueil. Bienvenue. Et que le Seigneur nous bénisse à travers sa parole. Alors, ce matin, nous allons commencer notre culte avec la lecture de la parole dans Genèse au chapitre 17. On va lire un petit peu partout aujourd'hui. On va commencer avec Genèse 17, du verset 1 à 7. Donc Genèse 17, 1 à 7. Quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit : Je suis le Dieu Tout-Puissant. Conduis ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière irréprochable. Je conclurai une alliance avec toi et je multiplierai ta descendance à l'extrême. Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu continua de lui parler en disant : Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham, père éminent, grand-père, père grand, mais Abraham, père d'une multitude, car je ferai de toi le père d'une multitude de peuples. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants, et je te donnerai d'être à l'origine de diverses nations. Des rois même seront issus de toi. Je maintiendrai éternellement mon alliance avec toi, puis avec ta descendance après toi, de génération en génération. En vertu de cette alliance, je serai ton Dieu, et celui de ta descendance après toi. Prions. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier pour ta présence dans nos vies. Merci, Père, pour ce patriarche que tu as choisi, afin que de lui naisse ton fils, et de ton fils, nous soyons réconciliés avec toi. Seigneur, merci parce que tu t'es choisi un homme intègre, et tu désires que nous aussi, nous soyons intègres. Merci, Père, pour ta présence dans nos vies. Amen. Amen. Alors ce passage de la parole nous ramène au début de notre propre histoire. Le Seigneur s'est choisi un homme qui avait la crainte du Seigneur, Abraham, de Ur en Chaldée. Il lui offre un pays où coule le lait et le miel, c'est Canaan, une région riche où il fait bon vivre et une descendance nombreuse. Et à 99 ans, le Seigneur réitère son alliance avec lui et lui rappelle cette promesse. Il lui donne aussi un nouveau nom, celui de Abraham, qui signifie « père des nations ». Et quand on regarde l'histoire d'Abraham, devenu Abraham, nous pouvons dire que Dieu a réalisé sa promesse. Il a fait de lui de nombreuses nations. Notre Dieu est appelé Adonai, c'est-à-dire Seigneur. Il est le Seigneur, c'est-à-dire le chef, celui qui mérite notre adoration. Il est aussi El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Les hommes se sont créés de nombreux dieux, mais il est le seul Dieu véritable, celui qui a créé l'univers, mais aussi se fait de nombreux peuples. Il s'est choisi un peuple en particulier, et de ce peuple est né son Fils, par qui nous avons la paix et nous avons le pardon. Dieu est Seigneur, il est tout-puissant. Alors nous pouvons commencer notre louange avec le chant numéro 97 de nos recueils. Nous adorons Adonai. C'est notre volonté ce matin, celui d'adorer notre Seigneur. Pour nous lever. Notre lecture dans Genèse 22, donc Genèse 22, à partir du verset 1. Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham. Il répondit, je suis là. Dieu dit, prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs, et Isaac, son fils. Il fendit du bois pour l'holocauste et se mit en route pour le lieu que Dieu lui avait indiqué. On continue au verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait indiqué, Abraham y bâtit l'autel et il disposa le bois. Il ligota Isaac, son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour immoler son fils. Alors, le messager du Seigneur l'appela depuis le ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Je suis là. » Il dit, « Ne porte pas la main sur le garçon et ne lui fais rien. Je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu du nom d'Adonai Jireh, c'est-à-dire Dieu voit. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, à la montagne du Seigneur, il sera vu. Le messager du Seigneur appela Abraham une seconde fois depuis le ciel. Il lui dit, « Je le jure par moi-même, déclaration du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai, et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel, et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance prendra possession des villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu m'as écouté. » Alors ce passage, beaucoup le connaissent, raconte comment Abraham était prêt à offrir ce qu'il avait de meilleur, ce qu'il a de plus cher au Seigneur, son fils unique, et comment Dieu a récompensé l'obéissance d'Abraham. Cela nous rappelle aussi comment Dieu a offert son propre Fils, son Fils unique, afin que nous soyons sauvés. Le Seigneur nous aime et il nous offre ce qu'il a de meilleur. Et au verset 17, le Seigneur promet à Abraham qu'il prendra possession des villes de ses ennemis. À nous, il ne nous offre pas des villes, les villes de nos ennemis, mais il nous prépare une place auprès de lui. N'est-ce pas encore mieux? Alors exaltons le Seigneur pour sa bonté et chantons avec un cœur reconnaissant le chant numéro 39. Je t'exalterai, Seigneur. Levons-nous et chantons ce chant. Parler de cette bonne nouvelle. Tout comme Abraham a quitté son ancienne vie pour aller vivre en terre promise et prendre possession des villes et de ses ennemis, le Seigneur nous envoie vers ceux qui sont perdus, afin de prendre à l'ennemi non pas les villes, mais les amener à Dieu, notre Père. C'est notre devoir et c'est aussi une joie de faire la volonté de notre Seigneur. J'aime l'Éternel, car il m'a sauvé. J'aime aussi l'Éternel, car il me garde du danger. J'aime l'Éternel car il entend ma voix et me délivre. Pouvons chanter en chant le chant 54. Un chant d'amour pour toi, Seigneur. Continuons avec ce chant.
Yeah.
voulons te remercier. Te remercier pour le sacrifice de ton Fils. Te remercier de t'être choisi un peuple par qui il vivrait. Merci Seigneur parce que tu n'as pas voulu que nous mourions, mais que nous vivions. Amen.
Amen.
Psaume chapitre 8. Du chef des chœurs, psaume de David. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre, toi qui le rends plus éclatant que le ciel. Par la bouche des enfants, des nourrissons, tu as fondé une force, à cause de tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi vindicatif. Quand je regarde ton ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as mises en place, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à un dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de ta main. Tu as tout mis sous ses pieds, moutons et chèvres, bœufs, tous ensemble, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Seigneur notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Le Seigneur, en nous créant, nous a fait semblables à lui. En nous sauvant, le Seigneur nous a recréés à l'image de son Fils, image parfaite du Père, en nous donnant son Esprit. Ce Dieu infiniment grand a tout créé et s'est révélé à nous afin de nous racheter. Il est Seigneur, il est tout-puissant, il est bon et il est infiniment grand. Chantons ensemble le chant numéro 163.
Les uns sur les autres.
et que tu es ta fille vivant grand. Mais Seigneur, tu es le Tout-Puissant, tu es l'Éternel, tu es l'Unique. Seigneur, je veux te louer parce que non seulement tu es Dieu, mais tu écoutes, Seigneur, et tu aides à écouter ton peuple. Seigneur, merci parce que tu as des oreilles qui entendent, tu as des yeux qui voient. Tu as des mains, Seigneur, pour toucher. Seigneur, tu touches nos cœurs, tu touches, Seigneur, nos pensées. Tu touches toute notre être, Seigneur, et nous voulons te louer pour cela. Merci, Seigneur, parce que tu es infiniment grand. Tu es infiniment merveilleux. Tout ce que tu fais, Seigneur, est merveilleux. Et Seigneur, je veux te louer pour cela. Merci pour ton Fils, le Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, je veux te remercier tout spécialement parce que tu as été obéissant. Je veux te louer parce que tu as accepté de mourir sur cette croix à ma place. Merci parce que tu as pris mon péché. Et merci, Seigneur, parce que tu me donnes la vie. Tu me donnes, Seigneur, cette vie éternelle, déjà ici sur terre, Seigneur, en habitant en moi. Seigneur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Et merci, Seigneur, parce que tu es au milieu de nous. Et tu sièges, Seigneur, avec ton Père dans les cieux. Merci parce que tu es vivant pour l'éternité, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Amen.
Amen. Seigneur, Jésus, ma cité, pour donner à toi. Ma cité, pour nous prier. Amen.
Amen.
Oui, Seigneur, merci pour ta grandeur, Seigneur. Merci parce que tout en toi est merveilleux, Seigneur. Et comment on peut imaginer certaines personnes qui croient que tu n'existes pas, Seigneur, quand on voit cet univers, Seigneur, quand on voit ce monde aussi petit être, Seigneur, aussi microscopique petit être, Seigneur. Comment on peut croire que tu n'existes pas, Seigneur? Et on veut, Seigneur, te louer aujourd'hui, Seigneur, pour ta grandeur, pour ta magnificence, Seigneur. Et on veut te remercier aussi, surtout, parce que tu nous permets, Seigneur, nous, si petits, Seigneur, de nous présenter devant toi, Seigneur, pour pouvoir te parler, Seigneur, pour pouvoir avoir une conversation avec toi, Seigneur, le vrai Dieu vivant de l'univers. Amen.
Amen.
Notre Dieu, par ta parole puissante, agissante, tu as amené de rien l'existence de toute chose. Il a fallu un mot de ta part, que la lumière soit, et elle a dissipé les ténèbres, elle est apparue. Et ainsi, pour chaque étape de cette création. Mais pour que nous t'appartenions en tant que peuple racheté, il a fallu bien plus que des mots. Il a fallu une œuvre. Et nous voulons exalter cette œuvre parfaite de la croix de Jésus, qui prend notre sort en main, qui se jette dans la mêlée qui existait entre toi, notre Dieu, trois fois saint, et nous, pauvres pécheurs. Il est mort à ma place, à notre place. Il a été le substitut parfait. Et nous sommes, nous, qui avons cru en lui, en son sacrifice, en son sang précieux qui a coulé, en sa résurrection, nous sommes de sa postérité. Nous sommes introduits dans une alliance qui est nouvelle, qui est éternelle, qui est parfaite, et qu'il a signée par son sang précieux. Nous sommes inscrits pour l'éternité dans le livre de vie. Seigneur, quel sort pouvait-on envisager de meilleur que celui-là? T'appartenir pour le temps et pour l'éternité. Seigneur, notre Dieu, pour le don de Jésus, pour toi, Seigneur Jésus, pour le sacrifice parfait, pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Nous voulons t'adorer et te bénir. Amen.
Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ton désir.
désir de venir au plus intime de toi. Toi, le Dieu infini, le Dieu éternel, dont nous ne mesurerons jamais l'immensité, tu acceptes de venir faire ta demeure en chacun de nous. Avec tout cela a comme conséquence concrète, nous pouvons, dans la faiblesse, t'aimer en retour, nous pouvons te suivre, nous pouvons obéir à ta parole, nous laisser façonner par toi. Merci de cette œuvre magnifique que tu fais en chacun d'entre nous, que nous ayons le désir, la volonté de t'ouvrir toujours plus une place grande dans nos cœurs et dans nos vies. Pour l'amour de ton nom et de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Et je pense que c'est ce que nous voulons jour après jour vivre, s'abandonner à la grâce et l'amour de notre Sauveur. Chantons ensemble ce chant.
Thank you.
Alors, j'ai quelques annonces ce matin, j'en ai même plusieurs. Premièrement, je crois que les membres du G30, donc les seniors, les seniors, je me trompe, les joyeux seniors, pardon, ont reçu l'annonce, mais voici l'annonce à ne pas rater. Voyage organisé pour les joyeux seniors de Dijon. Lundi 9 mars, donc c'est un lundi exceptionnellement, les joyeux seniors embarquent vers la Petite Savoie. Alors ne me demandez pas ce que c'est, vous allez trouver Daniel. Rendez-vous sur le quai de l'ancienne gare de Rétine, rue Laurent Gillis à Rétine. Alors l'horaire, c'est départ lundi 9 mars à midi et retour à 15h. Alors, le quai est aménagé en restaurant et réservé pour les joyeux seniors, mais il y a une condition, le petit post-scriptum en bas de page. Il faut au moins 25 personnes pour qu'il n'y ait que les joyeux seniors qui soient présents, sinon ça sera ouvert à d'autres personnes hors de l'église. Donc, date limite d'inscription le 10 février, voilà. Et le prix est de 15 euros, donc les joyeux seniors. On vous attend nombreux et en forme. Alors, deuxième annonce, c'est pour les dames. Alors, le cercle féminin se réunit le 8 février et le thème, ce sera le psaume 23. Et ce sera Edwige qui apportera la méditation. Alors, comme d'habitude, chant, prière, diaporama et un morceau de tarte, j'imagine. Et vous êtes les bienvenus, la bienvenue. Le lundi 3 février à 14h. Pour soutenir les tricoteuses tous les 14 jours. Ah oui, ça c'est les 15 jours, pardon. Ça c'est encore autre chose. Donc le 8 février c'est pour le cercle féminin et le lundi 3 février c'est pour les tricoteuses. Donc celles qui veulent venir tricoter des écharpes ou couvertures, voilà. Donc venez nombreuses. Et alors une petite phrase qui nous fait toujours plaisir, que le Seigneur nous garde, vous garde. Voilà. Alors, autre annonce, la semaine prochaine, nous aurons la visite d'un étudiant en théologie, donc un étudiant pasteur. Donc, nous le recevrons avec la RADA après pour faire mieux connaissance, mais c'est une connaissance de notre frère Michael. Donc voilà, soyez nombreux pour l'écouter et puis qui sait où le Seigneur va conduire tout cela. Alors autre annonce de notre sœur Janina, donc là je vais prendre mon téléphone pour le lire parce que j'ai oublié de l'imprimer. C'est une lettre qu'elle nous envoie comme régulièrement. Chers frères et sœurs de l'église de Glain, je vous salue par la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie chaleureusement pour la lettre que j'ai reçue au mois de novembre, ainsi que pour votre don de 450 € reçu fin décembre. Je suis reconnaissante aux frères et sœurs de votre Église qui nous soutiennent dans la prière, et particulièrement à votre sœur Émilie, ainsi que les autres membres du comité mission. Le 17, 18 et 19 décembre, nous avons eu rencontre de Noël avec nos enfants, divisés en 4 groupes d'âge. En tout, nous avons reçu 65 enfants. Donc, c'est autre chose que le petit groupe ici. Ils ont pu entendre la bonne nouvelle de la naissance de Jésus et ils ont reçu des petits paquets de friandises, de la littérature chrétienne ainsi que des peluches. Pour la plupart de ces enfants, c'est le seul cadeau qu'ils ont reçu à Noël. Le 22 décembre, il y a eu une représentation de chant de Noël ainsi qu'un petit concours biblique sur la connaissance des événements de la naissance de Jésus. Les enfants ont montré une bonne connaissance du sujet. Le 5 janvier, les enfants ont donné une représentation d'une scénette intitulée « Le salut des mages ». Cette représentation a été sujet d'une grande joie pour tout le monde. Et le 26 janvier, c'est la journée des grands-mères et des grands-pères et les enfants inviteront leurs grands-parents. Ce sera aussi une occasion pour chanter encore ensemble des chants de Noël. Pendant les fêtes, nous avons eu la visite de traducteurs de la Bible en langue tzigane. Et pendant leur passage chez nous, ils ont pu annoncer l'évangile aux familles tziganes qui habitent dans les environs. Quelques personnes ont manifesté un intérêt pour la parole et nous prions pour elles. Nous avons passé les fêtes de Noël, chacun avec sa famille, et cela nous a permis d'avoir un petit moment de repos. Nous remercions constamment le Seigneur pour les forces et la santé qu'il nous donne, pour le travail que nous effectuons parmi les enfants. En janvier, nous allons être en comité réduit, car sœur Evelyne va accoucher et sœur Dorota se soignera pour les problèmes de santé qui demandent une longue période de soins. Sœur Anna est pour le moment en période d'examen et elle va devoir faire son travail de fin d'études. Ensuite, de tous ces problèmes, sœur Irena va bientôt déménager et Beata et Tchibek, si je lis bien, qui sont une famille d'accueil, ont accueilli en décembre une jeune de 15 ans, Victoria, qui va accoucher au mois de janvier. Suite à cela, Beata devra aider Victoria pour s'occuper du bébé. Nous sommes donc conscients du manque de personnel que nous allons avoir et nous pouvons uniquement nous appuyer sur notre Seigneur. Je vous demande également de prier pour tout cela, pour nous, pour cela. En ce qui concerne ma santé, le souci avec le dos et la hanche continue. Malgré les séances de kiné que j'ai suivies au mois de décembre, je dois reprendre le traitement par médicaments. Je fais confiance que le Seigneur m'aidera dans les vies de tous les jours pour que je puisse faire face à mes obligations. Bientôt, je vais passer également les examens au centre oncologique. J'essaierai de passer également plus de temps avec mon papa et je continue à prier pour sa conversion. Je vous remercie pour vos prières concernant ma santé et concernant la conversion de mon papa. Ania vous remercie pour vos prières et pour son travail parmi les jeunes. Elle a toujours besoin de beaucoup de sagesse dans ce ministère. Notre but est d'attirer les jeunes qui nous visitent pour qu'ils gardent le plus longtemps possible contact avec nous. Et cela nous permet de leur annoncer la bonne nouvelle du salut. Les jeunes de la génération précédente, à l'âge de 14-16 ans, étaient souvent poussés à se marier. Nous continuons à prier pour Juliana, 18 ans, pour qu'elle puisse grandir dans la foi et dans la connaissance de notre Seigneur. Depuis quelques mois, elle participe au culte dans notre église. Frère Antoine vous remercie également pour vos prières. Son traitement contre le diabète a donné de très bons résultats. Durant le mois de janvier, je vais faire avec Frère Antoine le rapport financier pour 2019 et je prie pour que le Seigneur continue à lui donner les forces pour le travail qu'il accomplit à l'Église parmi les enfants. Chers frères et sœurs, au début de cette nouvelle année, nous vous souhaitons plein de santé et de joie dans notre Seigneur ainsi que la persévérance dans votre engagement envers le Seigneur. Nous vous saluons par la parole de 1 Jean 4, 10 à 11. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde dans toutes vos démarches. Votre sœur Janina avec ses collaborateurs. Alors, notre Seigneur nous a permis encore de la soutenir. Continuons donc par la prière et par les dons. Et je dis cela parce que, évidemment, cette fête culte, nous aurons la collecte pour la mission. Alors, ne l'oubliez pas. On a reçu une demande de prière cette semaine pour notre sœur Michèle Steinbruck. Est-ce que quelqu'un a reçu des nouvelles?
Oui. Non? Ouais.
Merci. Super, merci. On continue à prier pour elle. C'est une opération qui est assez lourde, donc elle aura besoin de repos. Voilà, alors les annonces habituelles, jeudi réunion de prière à l'église, premier dimanche du mois, distribution de la soupe, on a toujours besoin d'aide, donc aller trouver les responsables. Samedi, oui, donc on a 17 films d'âge, oui, Seigneur. Voilà, et n'oublions pas nos frères.
Royal Rangers aussi dimanche prochain.
Merci, j'oublie à chaque fois de l'annoncer. Merci aux responsables de nous faire savoir. Voilà, alors nous allons nous lever pour chanter à notre Seigneur. Et pendant ce chant, nous allons préparer nos offrandes au Seigneur, les offrandes habituelles, attachées à la croix. Et ce chant va nous préparer à la Sainte Seigneur.
Oh,
à prier pour les offrandes.
Seigneur notre Dieu, merci pour tes bénédictions. Merci parce que tu es présent parmi nous ce matin et que tu nous as gardés aussi durant cette semaine et que nous avons été richement bénis. Oui, Seigneur, merci pour toutes choses que nous savons de toi et que nous pouvons maintenant remettre une partie de ce que nous avons reçu. Que cet argent soit utile à ton Église. Que cet argent serve pour l'annoncer ta bonne nouvelle de salut à ceux qui ne te connaissent pas. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Paolo, pour à cette scène, pour vous rassurer.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Que dire après ce chant? Il y a vraiment... tout est dit. Néanmoins, je vous invite à lire juste un petit verset dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Pardon, chapitre 2, oui. Chapitre 2, verset 2. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et c'est vraiment un verset clé dans la Bible, parce que c'est vraiment le verset pour moi, le verset qui rappelle le mieux que le salut s'obtient par la foi et non par les œuvres. Donc, il y a ce que nous demande le Seigneur, c'est de croire. Il n'y a rien à payer, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à donner, il faut croire. Alors, on dit bien souvent, le salut est gratuit, donc. Il est gratuit pour nous. Pour nous. Mais il n'a pas été gratuit pour le Seigneur, pour notre Dieu. Parce que lui, Dieu, et c'est Paul qui nous le rappelle dans Corinthiens 6, 20, vous avez été achetés à grand prix. Donc si pour nous le salut est gratuit, qu'est-ce que ça a coûté à Dieu? Quel déchirement que de devoir donner son fils en pâture à la méchanceté des hommes. Et pourtant, il l'a fait. Il l'a fait parce que c'était dans son plan, par amour, par miséricorde, par compassion pour nous, et non pas parce que nous avons un quelconque mérite. Et c'est cela que je voulais rappeler, c'est que c'est vrai, le salut est gratuit pour nous, oui, mais pour Dieu, ça a coûté. Ça a coûté. Alors, une autre chose que je voulais dire, c'est que on dit il faut croire, mais le mot croire implique beaucoup de choses. Ceci, vous appelez ça l'alliance. En italien, on dit la fede, la foi. Ça s'appelle la foi, parce que ça symbolise la fidélité et l'obéissance. d'obéissance. Alors, je vais demander à ceux qui ont accepté de croire et par obéissance qui ont passé par les eaux du baptême de se lever. Et nous allons procéder. Alors, le frère du conseil, si vous voulez bien venir m'assister. Non, manque. Je demande à Daniel, si je veux bien. Alors, nous allons reprendre le texte qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23. C'est donc ce passage où l'apôtre Paul remet un peu les choses en ordre. Hein, parce qu'à Corinthe, la Sainte-Seine, c'était un peu n'importe quoi. Et alors, il remet tout ça en place. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Daniel.
Seigneur Jésus, le sauveur de nos âmes, tu nous présentes, tu nous demandes de nous rappeler ce corps que tu as pris pour accomplir la volonté de Dieu. Il y avait cette condamnation qui pesait sur nous, pauvres humains. L'homme qui pêche doit mourir. Et pour que tu prennes notre place, il a fallu, toi, notre Dieu, que tu te fasses chair, que tu prennes forme humaine, que tu deviennes esclave, que tu prennes notre condition d'homme, alors que tu n'avais rien fait qui ne se dût faire pour être condamné. Il a fallu que dans ce corps, tu subisses les affres du péché. Tu as été fait péché pour nous. Toi qui n'avais commis ni connu aucun péché, tu as accepté d'être fait péché pour nous. Et c'est dans ce corps que tu as porté nos nombreux péchés, afin de l'offrir en sacrifice de péché pour nous. Seigneur, en partageant ce pain, nous nous rappelons ce sacrifice d'amour pour nous et nous te bénissons.
Amen. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. » Attendez, Jean-François. Voilà, si on s'arrêtait là, le Seigneur est mort sur la croix, on serait, comme dit l'apôtre Paul, les plus malheureux des hommes et nous n'aurions rien à croire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, c'est pour ça que j'ai laissé le dernier verset pour la fin. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Et donc, s'il va revenir, c'est parce qu'il est ressuscité, c'est parce que 3 jours après, il n'était plus dans le tombeau. Et nous allons tous nous lever et nous allons chanter « Jésus-Christ Seigneur, il est sorti du tombeau, il est vainqueur. » Et c'est notre espérance à tous.
Jésus.
Encore à vous donner, vous pouvez reprendre place. On me rappelle le camp d'église, donc n'oubliez pas de vous inscrire. Je ne sais pas combien nous sommes déjà d'inscrits, mais je pense qu'il n'y en a pas encore beaucoup. Je crois que. Je ne vois pas.
Julie est en bas à l'école du dimanche et Sam est à la galerie.
Ah voilà, donc Julie et Sam sont à présent à l'église, donc allez les trouver si vous voulez pour avoir plus d'informations. Et alors, j'ai reçu les informations, et je crois que beaucoup les ont reçues, les camps de Genève sont ouverts. Donc, inscrivez vos enfants, plus ils sont, mieux c'est. Voilà, donc, nous allons avoir notre message ce matin. Je vais demander à Michael si tu veux bien prier pour le message.
Oui Seigneur, merci pour ce privilège, Seigneur, qu'on a d'avoir toute Villa qui vient nous apporter le message, Seigneur, qu'on puisse avoir tes oreilles attentives, Seigneur, et que tu puisses utiliser aussi, Seigneur, pour apporter, non pas son message, Seigneur, mais ton message de ta part, Seigneur. Amen.
Amen.
Je ne vais pas dire comme Job qui dit « j'avais entendu parler d'eux et maintenant je vous ai vu », mais c'est un peu ça. C'est la première fois que je me retrouve dans votre communauté de Glin. On a beaucoup parlé, puisque j'ai été impliqué aussi dans toutes les rencontres et les partages concernant votre affiliation à l'association des églises protestantes évangéliques. Et je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Dans la lecture qui a été faite tout au début dans le livre de la Genèse, je voudrais retenir juste un mot. Lorsque Dieu renouvelle en quelque sorte, ou établit, renouvelle l'alliance avec Abraham, il lui dit « Je suis le Dieu souverain, vis toujours en ma présence ». Et j'aimerais ce matin que nous réfléchissions à ce que signifie, ce que devrait signifier, ce que pourrait signifier dans notre vie concrète, pratique, vivre dans la présence de Dieu. Et je voudrais le faire en réfléchissant un peu à ce vaste mouvement qui aujourd'hui traverse toute notre société, notre culture, qui est ce vaste courant du retour à la méditation. Et si vous êtes un petit peu à l'écoute de ce qui passe, de ce qui se passe autour de nous, autour de vous, mais vous rendrez compte que la méditation est extrêmement présente aujourd'hui. On y consacre de plus en plus de temps, d'émissions, on parle beaucoup, pour ne parler que d'elle, de la méditation de pleine conscience, qui connaît un intérêt croissant, qui se pratique en milieu hospitalier, en milieu scolaire, universitaire, et même dans le monde de l'entreprise. Et lorsque j'entends toutes ces approches, ces sites, Internet et autres qui nous parlent de méditation, parfois je me dis, mais nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce que nous avons à dire? Qu'est-ce que nous avons à apporter à ces gens qui manifestement sont en souffrance dans un monde stressant où la vie est devenue de plus en plus difficile? Qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons à leur proposer comme réponse? Je pense que par rapport à toutes ces démarches méditatives, on a un peu l'impression qu'elles nous viennent principalement d'Orient, plus particulièrement du bouddhisme, et que ce sont ces seules démarches qui seraient porteuses de paix, de silence, et que nous, chrétiens, nous n'avons rien à proposer à nos contemporains. Je pense à cette personne avec qui je parlais méditation, je parlais de mon livre sur la prière, et qui m'a un jour fait cette réflexion assez étonnante. Je ne savais pas qu'il existait une méditation chrétienne. Pour elle, probablement que l'Évangile se résumait à un ensemble de lois, de règles et surtout de beaucoup d'interdits. Et pourtant, la méditation, elle est au cœur même de la parole, elle est au cœur même de l'Écriture. La méditation priante, lorsque nous faisons silence devant Dieu pour le rencontrer, pour entrer en parole, en dialogue avec lui, et puis cette méditation de la parole lorsque nous ouvrons l'Écriture pour y découvrir ses chemins de vie et sa volonté. Alors ce matin, j'aimerais simplement m'arrêter à l'enseignement que Jésus nous donne du Notre Père. Et plus particulièrement, je ne vais pas nous arrêter à la prière elle-même, mais plutôt nous pencher sur les circonstances qui ont conduit à ce que Jésus apporte à ses disciples, cette prière du Notre Père que nous connaissons bien. En fait, nous allons nous rendre compte que cette prière ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Marc n'en parle pas, Jean non plus. Pourtant, Jean est un apôtre de la communion avec le Seigneur, un apôtre de la vie intime avec le Maître. Seuls Matthieu et Luc nous parlent de cette prière et ils nous la présentent dans des contextes qui sont, nous allons le voir, radicalement différents. Dans Luc, c'est au cercle limité des apôtres, des disciples, que Jésus donne cet enseignement sur le Notre Père, sur cet enseignement sur la prière. Alors que dans l'évangile de Matthieu, cet enseignement est donné à la foule. Ça fait partie de ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 6, 7. C'est un enseignement qui est donné à la foule et donc qui est en fait un enseignement, en quelque sorte, ouvert à tous. Un enseignement privé d'une part, un enseignement ouvert de l'autre côté. Prenons le texte de Luc, tout d'abord, Luc chapitre 11, juste deux versets. Luc 11, les versets, on peut dire 1 à 4, nous y trouverons la prière dans une forme très concise. 11. C'est un peu étonnant comme texte. Vous allez vous en rendre compte. Il était un jour quelque part avec ses disciples. Il était un jour quelque part avec ses disciples. Quand il eut fini, on suppose, de prier, un de ses disciples lui dit « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et il leur dit « Quand vous priez, dites Père. » Et c'est la prière du Notre Père qui se trouve ici. C'est un peu étonnant. C'est d'une imprécision absolue. Il était un jour, quelque part. On ne sait pas du tout à quel moment et dans quelles circonstances cet enseignement va être donné. Un de ses disciples, le nom du disciple n'est pas non plus mentionné. On ne sait pas si c'est Pierre, Jacques, Jean. Rien ne nous est dit. Un jour, on dit « Alors ». Qu'il était en train de prier. Un jour, un disciple s'est approché et lui a demandé. Rien n'est dit sur le lieu, rien n'est dit sur la personne qui... Par contre, ce qui est précisé dans le texte, c'est que ils ont vu Jésus en prière. Et manifestement, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu les questionne, les interpelle et les conduit à poser cette question. Enseigne-nous, dis-nous. Comment prier ? Quand on parcourt les évangiles, on se rend compte que peu de textes nous parlent de la prière publique de Jésus. Il y en a bien sûr quelques-uns, mais ils sont peu nombreux, et généralement, ces textes-là nous présentent des prières relativement brèves. Il y a par contre deux situations où les disciples vont être véritablement témoins de la prière de Jésus. Petite question d'école du dimanche. Quelles sont ces deux circonstances où les disciples ont été témoins, trois disciples, Pierre, Jacques, Jean, ont été témoins de la prière de Jésus. Gethsémané, mais avant cela, n'ayez pas peur, je ne donne pas de points, je donne simplement des bonbons si vous répondez bien. C'est déjà pas mal. Non, pas du tout. Excusez-moi. Mais,
hein? Transfiguration.
Mais la transfiguration. Ce sont les deux événements où Jésus va inviter trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, à l'accompagner en disant « Venez avec moi ». Et Jésus va monter avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne de la Transfiguration. Et qu'est-ce qu'ils vont découvrir ? Jésus, dans l'intimité de sa relation avec son Père. Jésus devient resplendissant de lumière. Il est dit que ses vêtements deviennent blancs, il est auréolé de lumière et il s'entretient avec son Père dans la présence de Moïse et Élie. Un événement tellement bouleversant que les disciples ne vont pas avoir envie de redescendre de la montagne. Et c'est vrai qu'on le vit quand on a vu une expérience de Dieu très profonde, on a envie d'y rester, on peut vivre par exemple un week-end d'église, une retraite, où on a vécu des choses tellement fortes, on a envie d'y rester. Pourtant, ils vont devoir redescendre dans la plaine. Les disciples ont vu ce qu'était la prière de Jésus. Et j'ai l'intime conviction que c'était, sur la montagne de la Transfiguration, c'était l'ordinaire de la prière de Jésus. Je suis convaincu que chaque fois que Jésus prenait du temps, il laissait les disciples en train de dormir, il les rejoignait au petit matin, et que Jésus prenait du temps pour être dans la présence de son Père. C'est ce qu'il vivait, parce que dans la lumière de Dieu, il en était lui-même transformé. Et je pense que les disciples l'ont remarqué, parce que quand Jésus revenait au petit matin et qu'il les réveillait ou qu'ils avaient constaté que son emplacement était vide, et qu'une fois de plus, il n'avait pas dormi avec eux quand il le voyait revenir au petit matin. J'ai l'impression que la présence et la lumière de Dieu illuminaient son visage. Il avait trouvé dans cette intimité avec son Père la force pour aller vers les autres, la force pour annoncer la parole, la force pour guérir, la force pour avoir des actes et des gestes de compassion. L'autre situation qui était mentionnée en premier, c'est bien sûr l'épisode dramatique du jardin de Gethsémané. Et là, de nouveau, Jésus va demander à trois de ses disciples, les trois mêmes qui avaient été sur la montagne. D'ailleurs, cette expérience de la montagne, si vous regardez, Jean en parle dans ses épîtres et Pierre en parle aussi. Nous avons été sur la montagne. On se rend bien compte que pour Pierre, Jacques et Jean, c'est un événement qui était bouleversant. Ils vont connaître un autre moment de la prière de Jésus, c'est dans le jardin de Gethsémané. D'un côté, c'est le Christ dans la gloire de la présence de Dieu, et de l'autre côté, c'est le Christ dans l'agonie, dans l'attente de la croix. Le texte nous dit que sa sueur devint et tombe en terre comme des grumeaux de sang. En fait, c'est intéressant, parce que les disciples ont été en quelque sorte témoins des deux extrêmes de la prière, des deux extrêmes de notre prière. Nous pouvons avoir à certains moments une intimité profonde avec le Seigneur qui nous transforme, qui nous éblouit, mais nous pouvons aussi connaître, dans certains de nos parcours de vie, une prière qui, à l'image de la prière du Christ dans le jardin de Gethsémané, est une prière d'agonie, pour obtenir de Dieu une parole. Les disciples ont été témoins. Le texte nous dit que « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et il est vrai qu'à l'époque, tout maître spirituel, tout conducteur spirituel enseignait à ses disciples, je dirais, les éléments essentiels de la piété, de la vie de foi. Et la vie de foi, c'était bien sûr la prière, c'était la manière de lire la parole, c'était la manière de se tenir devant Dieu. Mais on peut supposer que la prière de Jean-Baptiste était probablement une prière plus formelle, plus liturgique. Ce qu'ils avaient découvert de la prière de Jésus était différent, d'où cette demande de dire « Seigneur, dis-nous comment prier ». Je me pose la question, et je la pose de plus en plus au fur et à mesure que j'avance dans toute cette recherche autour de la prière. Qu'est-ce que nous avons comme enseignement sur la prière ? Je pense que souvent nous sommes d'excellents spécialistes de la prière de demande, oui, mais les autres démarches de prière, cette prière de la rencontre avec le Seigneur, cette prière de l'intime, cette prière de l'intimité, cette prière du silence, bien souvent, c'est pour beaucoup d'entre nous une terre inconnue. Alors je me pose la question, est-ce que nous avons un enseignement qui nous est donné sur la prière ? Et puis une autre question, est-ce que nous avons des modèles de priant. Des hommes et des femmes qui ont une vie de prière tellement profonde, tellement riche, qu'ils nous donnent envie à notre tour de nous mettre à prier et qu'ils sont capables de répondre à nos demandes en disant « Dis-nous comment tu fais ?» Parce que ce que tu vis dans l'intimité avec le Seigneur est tellement fort et tellement riche que nous avons envie de le découvrir. Ce qui est étonnant, c'est que à la demande de ce disciple, Jésus ne va pas faire un cours sur la prière. Si vous prenez les livres sur la prière, vous allez voir qu'on vous a dit qu'il y a la prière d'adoration, la prière de louange, la prière de consécration, la prière de guérison, etc. Il y a tout un ensemble de démarches et de formes de prière. Jésus ne dit rien de cela, il donne simplement une prière, le Notre Père. On n'a pas le temps, mais si on avait le temps de reprendre cette prière, on se rendrait compte que dans cette prière que Jésus donne à ses disciples, toutes les formes de prière sont données. Prière d'adoration, prière de confiance pour le quotidien, prière de pardon, prière de réconciliation. Contexte de Luc, un disciple pose la question. On peut imaginer que le Christ est là et que les disciples sont assis en cercle autour de lui. C'était en tout cas la manière habituelle du maître qui enseignait. Le contexte de Matthieu est par contre différent. Et là, nous allons nous arrêter sur les trois textes qui parlent, en quelque sorte, de ce qu'est la piété juive et que Jésus connaissait et que Jean-Baptiste connaissait, c'est-à-dire la prière, l'aumône et le jeûne. Nous sommes dans Matthieu 6, c'est là où nous allons trouver ces différents enseignements sur la prière. Matthieu 6, verset, déjà le premier verset, parce qu'il donne en quelque sorte le cadre dans lequel tout l'enseignement va être présenté. « Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard, sinon pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Il y a un vécu de notre foi qui est appelé à se vivre dans l'intimité, avec un seul témoin qui est Dieu lui-même. Et les autres n'ont pas à intervenir ni à être spectateurs de ce que nous vivons avec le Seigneur. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes. Et donc, Jésus va prendre trois éléments de la spiritualité de l'époque. Quand donc tu fais l'aumône ? Ne le fais pas claironner devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues en vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. On se rend compte que dans, et on va le voir pour les deux autres, tout est une question de témoins. Les témoins, ce sont les autres qui nous voient en train de prier, qui nous voient en train de faire l'aumône ou qui nous voient en train de jeûner. Et ce que Jésus essaye de dire ici, c'est ce sont de mauvais témoins. Et ces témoins-là, en reconnaissant que vous êtes, ou que vous apparaissez comme des gens très spirituels, font que vous avez déjà reçu votre récompense. Toutes ces choses, c'est dans le secret que vous êtes appelés à les vivre. On poursuit. Les versets suivants. Quand vous priez, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leurs prières debout dans les synagogues et les carrefours afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, verrouille ta porte. Et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent que c'est à force de paroles qu'ils se feront exaucer. Ne leur ressemblez donc pas, car votre Père sait ce dont vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Et le dernier texte qui concerne le jeûne et qui s'inscrit exactement dans le même climat que ces deux premiers. Comme vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, ne prenez pas une mine d'enterrement, pour le traduire peut-être dans une autre langue. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre comme font les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, lave ton visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père, il voit dans le secret, te le rendra. intéressant de souligner donc que, en fait, je l'ai déjà dit, tout est une question de regard ou de témoin. Il y a la foule. Si vous êtes généreux et que vous arrangez pour qu'on le sache, vous avez déjà en quelque sorte votre récompense. La générosité, c'est quelque chose qui se vit dans le secret de notre relation à Dieu. Lorsque nous jeûnons, moi je connais quelqu'un qui disait « Toutes les semaines, le jeudi, je jeûne. » Mais ça ne vous regarde pas de savoir si je jeûne ou si je ne jeûne pas. Ça ne vous regarde pas. C'est ma relation au Seigneur qui est importante et qui est essentielle. C'est lui qui voit et qui voit la vérité de cet engagement, la vérité de mes paroles. Mais toi, tout se vit donc dans le secret d'un Dieu qui connaît nos motivations profondes. Mais toi, si tu donnes, ce n'est pas pour que les autres le sachent, mais par compassion, parce que ton cœur est touché, parce que tu sais qu'il y a des besoins autour de toi et parce que tu veux partager ce que le Seigneur t'a donné. Pour toi, quand tu pries, ce n'est pas pour être admiré ou respecté, mais parce que tu as simplement besoin de plus d'intimité avec le Seigneur. Avant de proposer le Notre Père, dans Matthieu, Jésus a cette surprenante invitation pour toi. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée, ta chambre secrète, verrouille ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est un texte qui pour moi est vraiment central pour comprendre ce qu'est ce chemin d'intimité que le Seigneur veut construire avec nous. Et nous allons nous y arrêter un petit peu plus longuement. Ce qui est peut-être étonnant, c'est que cet enseignement est donné, ce texte de Matthieu 6, c'est un enseignement qui est donné à la foule, qui ne s'adresse pas simplement au cercle des intimes. Ça veut peut-être simplement nous dire que tous ceux qui sont en recherche de paix, d'intériorité, de recentrement, peuvent trouver dans ces paroles un chemin qui n'est probablement pas le chemin des méditations que nous connaissons, mais ce chemin d'une rencontre avec le Seigneur qui va véritablement transformer et nourrir notre vie. Pour toi, si tu veux prier. Alors, je ne sais pas ce que vous avez comme traduction biblique devant vous, le verbe « vouloir » ne se trouve pas dans l'original, il n'est pas dans le grec. Mais pourtant, il me semble que les conditions qui vont être présentées après semblent indiquer que ce vouloir. En fait, manifestement, ce que Jésus est en train de dire, il s'adresse à des personnes qui veulent entrer dans une vie de prière plus profonde. Ce n'est pas simplement la petite prière du petit déjeuner où « Seigneur, garde-moi aujourd'hui, garde mes enfants et fais que tout aille bien sur la route ». C'est une prière beaucoup plus profonde, c'est une prière de la présence, c'est une prière de l'intime. Et il me semble que pour que cette prière puisse se vivre, il faut le désir de la vivre. Et il me semble aussi que la suite du texte va l'indiquer. Parce que si tu veux prier, nous allons nous rendre compte que deux conditions sont à remplir. Pour toi, si tu veux prier, entre dans ta chambre secrète et verrouille ta porte. Ça, ce sont nos deux responsabilités. Il faut se trouver un lieu où nous savons que nous allons être préservés peut-être des bruits extérieurs, des bruits de la maison, des bruits de la famille. Trouver un lieu où nous savons que nous allons pouvoir nous retrouver dans la solitude, dans le face-à-face devant le Seigneur. Entre dans ta chambre la plus retirée. En fait, c'est une pièce sans témoin. Et je pense que c'est important de pouvoir vivre nos prières, notre vie de prière, sans témoin. Pourquoi ? Peut-être tout simplement parce que dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, où il se passe des choses, où le Seigneur ouvre nos cœurs peut-être sur certains dysfonctionnements, peut-être parce que aussi nous sommes éblouis par sa présence, nous n'avons pas besoin d'avoir des témoins qui voient comment nous sommes en train de vivre ce moment d'intimité avec le Seigneur. On peut pleurer sur nos fautes, sur nos dysfonctionnements. On n'a pas besoin de témoins. On peut être tellement ébloui, émerveillé de cette présence devant le Seigneur qu'on n'a pas besoin de témoins. Et le Seigneur nous invite à entrer dans un lieu secret. C'est quoi ce lieu secret ? Alors quand on prend le grec, c'est intéressant de voir que On dit que c'est la remise à outils. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, bien souvent, chez les gens pauvres, c'était, on vivait dans une pièce commune. Tout se faisait dans la même pièce. On dormait, on mangeait, etc. La remise à outils, on pouvait quand même espérer qu'on n'y serait pas dérangé. Et la remise à outils était à côté de la maison. Donc c'était un lieu quelque peu isolé, un lieu un peu plus solitaire. Jésus dit, alors je vais le traduire comme ça, mais ce n'est pas exactement comme ça. Pour toi, si tu veux prier, entre dans la remise à outils. Essayez de voir chez vous, vous avez une remise à outils. Peut-être que vous n'en avez pas. Mais enfin bon, essayez de vous trouver un lieu. C'est ce qu'il est en train de nous dire. Essayez de vous trouver un lieu où vous savez que vous n'allez pas être dérangé par qui que ce soit, par les bruits de la famille ou par tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, il continue en disant que nous sommes invités à verrouiller la porte. C'est étonnant ce verbe « verrouille ta porte ». Tire le cadenas, voilà, ferme ta porte. Pas simplement la fermer, mais verrouille-la. Je pense que là aussi, il y a un enseignement à tirer qui est de nous dire que cette porte verrouillée indique clairement, m'indique clairement et indique clairement aux autres que je suis entré dans un espace qui est protégé en quelque sorte. Je suis entré dans la présence du Seigneur et donc, s'il vous plaît, comme à l'hôtel, on mettra « do not disturb », ne pas déranger, hein, qu'on met sur la porte de la chambre, c'est un peu la même chose. Voilà, ne me dérangez pas. Je peux parler d'une expérience vécue, parce qu'elle était sympathique. Pendant quelques mois, notre fille qui habitait l'Italie est rentrée chez nous. Et en attendant d'avoir un appartement, son appartement qui se libère, elle a vécu pendant 3 mois, 4 mois à peu près à la maison. Et le mot d'ordre était très clair. Papy médite. Parce qu'avant de les conduire à l'école, je me retirais dans mon bureau, c'était ma remise à outils, puisque dans le bureau, j'ai mon ordinateur. Mon ordinateur, c'est mon outil, et mes bouquins, ce sont mes outils aussi. Donc, je n'allais pas me mettre dans la pièce où il y a une hache et une scie. Donc, c'était, en quelque sorte, ma remise à outils. Mais les enfants le savaient très bien. Je peux vous dire que le départ à l'école se vivait sans cri et sans tumulte, alors que d'habitude, ce n'est pas toujours le cas avec de jeunes enfants. Donc voilà, c'est le lieu où j'ai verrouillé la porte. Mais peut-être que verrouiller la porte indique encore autre chose, et nous y reviendrons un peu plus loin. Ça veut dire qu'on ne ferme pas la porte simplement pour y rester pendant 2 minutes. Il y a d'autres pièces où on ferme la porte pour y rester 2 minutes. Mais aucun parallèle avec ça. Non. Si je ferme la porte et si je la ferme à clé, c'est une manière de dire très clairement, j'y suis, pour y rester un certain temps, pour prendre du temps devant lui. Nous y reviendrons très brièvement, mais nous y reviendrons dans un instant. Et puis le texte continue. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta pièce secrète, verrouille la porte, et prie, adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. Et je pense qu'il y a là une promesse dont nous ne soulignons pas toute la puissance et toute la force, c'est que je n'ai pas à supplier Dieu de venir me rejoindre dans cette pièce. Non, il y était avant moi, il m'attendait, et ton Père qui est là dans le secret te le rendra. Et ton Père qui voit, nous verrons aussi que le verbe voir est important, et ton Père qui est là dans le secret. Donc c'est magnifique de se dire, pour moi je fais un parallèle avec un autre enseignement du Christ qui dit « Lorsqu'on est en communauté, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Est-ce que nous sommes conscients que quand nous nous réunissons au nom du Seigneur, il y a cette présence, ce témoin du Seigneur parmi nous ? Je pense qu'on n'en est pas conscient parce que bien souvent on se rencontre et puis après 3 minutes, on est déjà en train de se disputer et on est déjà en train de faire 2 clans qui vont s'affronter. Et pourtant, le texte nous dit, là où 2 ou 3, je suis au milieu d'eux. Eh bien, ce texte dit la même chose. Lorsque j'exprime cette volonté de le rencontrer, que j'entre dans ces pièces, que j'en verrouille la porte, je verrouille, je me retourne et je découvre qu'il est là. Et moi, c'est quelque chose qui me touche profondément parce que quand j'entre dans ce moment de tête à tête, je peux dire, Seigneur, merci, parce que je n'ai pas à supplier que tu viennes. tu es là et tu m'attends. Et puis le texte va encore plus loin. Ce petit verset, il est extraordinaire. Hein. Enfin, moi, c'est un texte qui m'a... Quand j'ai pris conscience de toute cette richesse de ce texte, c'est un texte qui m'a bouleversé et qui continue, chaque fois que j'en parle et chaque fois que je le relis, de me bouleverser de la même façon. Le texte nous dit « et qui voit ». Le texte ne dit pas « et qui entend ». Le texte n'était pas en train de dire « et prie ta prière et le Seigneur qui entend ta prière ». Bien sûr, il l'entend, mais il la voit. Ça veut dire que dans certains moments dans notre vie, notre prière peut être sans parole. Peut-être parce que nous sommes au milieu d'une épreuve, parce que nous sommes au centre d'une demande, d'un questionnement, et que nous ne trouvons pas les mots. Peut-être aussi parce qu'il y a des moments dans l'intimité avec le Seigneur où les mots sont inutiles. Je le crois de plus en plus. Il y a des moments où on est simplement là dans sa présence. Un peu comme ces vieux couples qui sont ensemble depuis tellement longtemps qu'à certains moments, les paroles sont inutiles. On est simplement content d'être là côte à côte. C'est tout. C'est tout. On n'a pas besoin de plus. Et puis de temps en temps, il y a une parole qui se manifeste. Pas tout à fait la même chose que quand je suis au volant de la voiture, parce que bien souvent, on peut rester... La seule voix qui nous perturbe dans la voiture, c'est le GPS qui nous annonce qu'on va bientôt devoir tourner à gauche ou à droite. On passe de très longs moments, ma femme et moi, en voiture. Quand on descend sur l'Italie, ça prend un certain temps. Et puis, de temps en temps, je me tourne vers « T'as rien à dire ?» Et puis, elle se tourne vers moi « Non, rien de particulier. » Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'intimité qu'il y a entre deux personnes. Enfin, soit, j'arrête là parce que j'ai commencé à dire peut-être des bêtises. Je ne tiens pas à dire des bêtises parmi vous ce matin. Qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il nous donne une démarche de prière où on se rend bien compte que la prière ne va pas être simplement comme c'est parfois et peut-être trop souvent l'énumération de toute une série de sujets. Bien souvent, nos prières, c'est voilà, on prie pour, et puis on répète pour nous montrer que cette prière est une prière différente, qui n'exclut pas l'intercession, qui n'exclut pas la demande pour des sujets précis. C'est d'abord une prière où on va chercher à construire, à vivre et à construire une relation intime avec le Seigneur. Et c'est là, me semble-t-il, où il y a une extraordinaire réponse à cette attente, à ce besoin de méditation que connaissent nos contemporains. Nous avons ici une formidable promesse. Nous avons la possibilité, l'offre qui nous est faite, de nous retrouver dans la présence de Dieu, dans le silence de ce lieu quelque peu protégé, pour engager une véritable conversation avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à proposer, finalement, à tous ceux qui sont en recherche de méditation, mais peut-être leur rappeler que c'est une démarche qui est une démarche d'apaisement. C'est une démarche où nous pouvons, en quelque sorte, goûter à quelque chose qui apaise nos cœurs au milieu de toute l'agitation que nous connaissons. Et Jésus aime nous inviter à nous retirer dans des lieux où nous sommes dans la tranquillité. Peut-être aussi, et ça c'est un autre sujet, mais nous n'avons pas l'occasion de l'aborder, mais voilà. Mais ça fait partie, en tout cas, d'un enseignement que j'essaye de faire passer, prendre du temps. Alors à nous de déterminer quel est le temps que nous pouvons y consacrer. Est-ce que c'est 2 minutes tous les matins? Est-ce que c'est 5 minutes tous les matins? Ou est-ce que c'est davantage? Quand on regarde les grands hommes de Dieu qui ont jalonné l'histoire, on est assez mal à l'aise de voir que ils y consacraient 1 heure, 2 heures tous les jours dans le tête-à-tête avec le Seigneur. On s'étonne peut-être que leur vie était profondément transformée et bouleversée. Mais simplement, découvrir qu'il y a là un chemin qui nous est donné, d'un Seigneur qui nous attend et qui désire construire une relation d'intimité avec nous. Le texte nous disait « Vis dans la présence de Dieu ». Je pense que nous avons là l'entrée d'un chemin qui nous permet de vivre cette expérience d'une intimité plus grande avec le Seigneur et qui nous permet de vivre dans sa présence. Amen. très difficile, mon frère, de faire de l'autoprésentation. Donc j'aimerais que quelqu'un qui a lu ce petit livre et qui a trouvé quelques richesses le présente aux autres. Moi, je n'aime pas m'auto-présenter. C'est tout. Donc voilà. Ou bien tu dis quelque chose. Non, je ne le ferai pas, garçon. Non, c'est vrai. Mais non, c'est ainsi. Mon là là. Tu es libre quand même de faire ce que je veux. Bon. Allez, dis quelques mots. Et fais ça bien.
Voilà, moi, je vous encourage à acheter ce livre au prix de 15 euros. Voilà. La prière du cœur, c'est une réflexion de Claude Guinin sur ce sujet dont il a apporté quelques mots ce matin. Il est aussi l'auteur d'autres livres, et en particulier un livre sur la Seine-Saint-Denis. Du cœur, trouver le cœur à cœur. Si je peux résumer ce livre, peut-être prier c'est bien, mais mieux prier c'est encore mieux. Voilà. Et ceci sera sans doute le résumé de ce livre qui est une réflexion, une démarche pratique de Claude. Si je peux le présenter, hein, c'est un frère que j'apprécie beaucoup. Voilà. Il a été enseignant, il est pasteur, hein, enseignant dans une athénée. Et dans les Cap Jeunes, au moment où ils existaient, nous avons pu bénéficier de plusieurs jeunes qui ont été amenés à la conversion de Jésus-Christ et qui ont partagé cette nouvelle naissance et leur vie pratique avec le Seigneur au sein du Cap Jeune. J'ai un regret, mais voilà, je le dis ouvertement, Claude. Notre frère a été sollicité dans un siècle passé à la radio, à la télévision, pour présenter Présence protestante. Mais étant trop évangélique, à votre disposition.
Merci à notre frère pour la bonne parole sur la prière et surtout où se mettre en prière. Et le Seigneur fait toujours bien les choses, et le chant pour terminer ce culte, c'est tourner les yeux vers le Seigneur. Alors, que ce soit dans la prière, que ce soit dans la lecture, que nous puissions toujours tourner les yeux vers notre Seigneur, afin qu'il puisse nous écouter et nous guérir aussi de nos peurs. Nous pouvons nous lever pour ce chant. Pendant ce temps, j'invite toutes vos offrandes à passer pour la mission.
Votre cœur, il est votre maison.
Seigneur, que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Amen. Et bon dimanche à tous. Merci.